Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Nous allons comme toujours parler de deux sujets qui sont mis sur la table par nos décrypteurs. Aujourd'hui, je reçois Christian Laporte, journaliste spécialiste de la politique belge et de la famille royale entre autres, ainsi que Manu Van Lier, journaliste chez Cato Bell et Dimanche. Bonjour messieurs, comment allez-vous par cette fin de semaine ensoleillée ?
Bonjour, aussi bien que le temps du jour de l'enregistrement.
Bonjour Armel, bonjour à toutes et tous, ça va très bien.
Alors, je vous propose de faire un petit sommaire de cette émission. Deux sujets, comme je l'ai dit. Le premier concerne la situation actuelle en Haïti. Le pays est en proie aux violences des gangs qui réclament que le Premier ministre démissionne. Celui-ci a annoncé qu'il le ferait. On y reviendra. Et en seconde partie d'émission, nous parlerons de la fin de vie assistée pour laquelle la question de la légalisation se pose notamment chez nos voisins français. Le président français Emmanuel Macron a en effet annoncé un nouveau projet de loi qui encadre la fin de vie sans jamais utiliser les termes suicide assisté ou d'euthanasie. On tentera de décrypter tout ça tout à l'heure donc. Et enfin, nous passerons à vos zooms avant d'accueillir Pierre Granier pour la présentation du journal Dimanche de la semaine. Alors dites-nous en deux mots de quoi vont parler vos zooms.
Alors je vais parler de la manière dont le nouvel archevêque a décidé notamment de se mettre à la découverte de ses différentes paroisses et doyennés. Et je ferai une petite comparaison avec Monseigneur Léonard dans la mesure où j'avais suivi à l'époque, Monseigneur Léonard, au même endroit, c'est-à-dire dans la paroisse Saint-Roch à Hal.
Super, c'est noté, Manu.
Eh bien moi, je vous parlerai d'une carte blanche signée par des représentants de Greenpeace qui défendent une directive européenne pour un devoir de vigilance aux entreprises pour défendre l'impact humain et environnemental des activités de ces entreprises.
Super, bon, on vient là-dessus en troisième partie d'émission et on va se lancer dans le vif du sujet avec Haïti. La situation actuelle sur place est plus que compliquée ces dernières semaines. Des gangs armés contrôlent aujourd'hui la majorité de la capitale, Port-au-Prince. Ils imposent leurs lois sur près de 80% du territoire haïtien. Le dimanche 3 mars, l'état d'urgence et un couvre-feu ont été décrétés après l'attaque du pénitencier national de Port-au-Prince et la libération de 3500 détenus. La situation n'est évidemment pas nouvelle. En 2021, le 7 juillet pour être exact, le président Jovenel Moïse est assassiné. Et depuis, c'est le Premier ministre Ariel Henry qui était nommé 48 heures avant le meurtre qui assure l'intérim. Il reste très contesté par la population qui le juge illégitime. Et Ariel Henry a finalement annoncé qu'il démissionnait mardi depuis Porto Rico où il est bloqué. Et il a annoncé gérer les affaires courantes le temps qu'un Premier ministre de transition puisse être désigné. Je pense que j'ai fait une photo assez large de la situation. On fera des zooms s'il faut tout à l'heure. Alors, les gangs expriment une sorte de ras-le-bol qui viendrait de la population envers le pouvoir en place ces dernières années, avec donc en point culminant l'assassinat de l'ancien président et les violences récentes. Est-ce que toutes ces violences vont vraiment régler les choses ?
Objectivement, je ne le pense pas parce que... Le problème est que Haïti est depuis, je dirais, des décennies un État à difficultés diverses en raison de sa grande pauvreté, mais aussi à cause de ses nombreux soubresauts politiques, avec surtout des présences de présidents plutôt proches de la dictature, plus proches que de la démocratie normale. Bien sûr, il y a eu les Baby Doc et Papa Doc, les chevaliers, il y a déjà un certain nombre d'années, mais depuis lors, bon, ça n'a pas vraiment été mieux. Et je dirais que dès qu'un problème naturel se pose, le bilan s'élève directement beaucoup plus haut. Évidemment, je pense ici au tremblement de terre de 2010, dont on estime le nombre de victimes de 200 000 à 300 000, ce qui est quand même énorme quand on voit que dans d'autres États qui n'ont peut-être pas nécessairement mieux bâti pour résister au choc sismique, mais c'est beaucoup moins nombreux. Je pense notamment au Chili, où un des récents tremblements de terre n'avait fait que, façon de parler, 3 000 victimes.
Je rebondis sur ce séisme. Outre les 250 à 300 000 morts, on comptait le même nombre de blessés, des blessures graves avec nombre d'amputations. On estime à 1 200 000 personnes déplacées dans le pays qui vivaient donc dans des centres, qui avaient pu trouver refuge dans des abris de fortune. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans le pays quelques années après les séismes. Et c'est vrai que partout, voilà, il y avait encore ces camps de réfugiés qui étaient là, même à l'intérieur de la capitale Port-au-Prince. Vous changez de quartier, vous tournez une rue, et puis voilà, vous découvrez des tentes qui sont là au milieu de toute la circulation, à proximité d'un petit marché. Et voilà, ça faisait partie du quotidien, en fait, de ces gens. C'est une population qui est marquée par la pauvreté depuis tant d'années, et en effet... Toutes les catastrophes naturelles ont encore affaibli le pays, un pays qui est affaibli aussi par une mauvaise gestion de la part du gouvernement. Et donc ici, avec le presque actuel président, donc Ariel Henry, je pense que la population était arrivée à un point de saturation, à d'autres espérances pour le pays. Alors, on ne sait pas encore qui va pouvoir amener cet espoir d'un renouveau. On parle d'un gouvernement de transition. Malheureusement, ils ont choisi la voie de la violence pour se faire entendre. Il y a eu des manifestations pendant les mois précédents, mais qui n'ont pas apporté de changement. Le président Ariel Henry s'accrochait au pouvoir. Il avait parlé de la possibilité... Donc, normalement, il aurait dû terminer déjà son mandat en février, mais il parlait d'élections pour la mi-2025. Ce qui était inacceptable pour une part de la population. Et donc, en effet, il y a eu ces actions de violence qui se sont multipliées. Et les plus marquantes, comme vous l'avez dit en introduction, ce sont les prisons, avec deux prisons attaquées pour un total de 4500, 5000 détenus dans la nature, mais des gens vraiment dangereux. Donc, on parle d'assassins, on parle de trafiquants. Mmh. Moi, je comprends que la population craigne pour sa vie actuellement.
Alors, lorsqu'un Premier ministre de transition sera désigné, parce que ce n'est pas encore fait comme vous venez de le dire, Manu, l'aide humanitaire pourra peut-être enfin rentrer dans le pays, parce qu'il n'y a encore rien d'organisé, si je ne m'abuse. À quel point est-ce que cette aide humanitaire va être utile tant que les gangs seront au pouvoir dans les rues?
Alors, il y a le problème des gangs et il y a le problème, malheureusement, du gouvernement aussi. Si vous vous souvenez, après le séisme de 2010, les aides internationales pour Haïti ont été vraiment gigantesques, et notamment de la part des États-Unis, qui ont déployé des moyens très importants, mais qui avaient un devoir de résultat. Et je me souviens avoir interviewé un chercheur qui s'était quand même inquiété à l'époque de la manière dont l'argent avait été dépensé, sans concertation avec les autorités, sans concertation entre les différentes ONG présentes sur place. Et il fallait un peu montrer qu'on agissait rapidement, on construisait un peu partout, mais sans plan réel. On apportait des aides, mais qui n'étaient pas forcément les aides les plus concrètes. Donc ici, je pense qu'on peut se rassurer de cette volonté tant de l'Union européenne que des États-Unis et d'autres États encore d'apporter une aide humanitaire et de soutenir la population qui est menacée de famine rapidement. Les infrastructures ont été mises à mal. Donc, il faut relancer tout ça. L'aide humanitaire qui n'a pas été interrompue complètement, mais on sait qu'il y a eu des détournements, notamment avec l'attaque de l'aéroport, avec l'attaque au port aussi, où clairement les vivres qui arrivaient d'aide humanitaire étaient détournés. Donc, il faut que ça continue pour aider en premier cette population, mais avec le risque que ce soit encore détourné par les gangs ou qu'il y ait une certaine corruption et un marché noir qu'on sait très présent là sur place.
Christian?
Oui, mais donc, en fait, la situation me paraît quasiment désespérée, quoi, dans la mesure où, on devra compter sur l'aide extérieure, mais là aussi, il y a deux types d'analyses possibles. Certains, notamment dans certains milieux de gauche, ici en Europe, disent que, on est en fait encore dans une situation un peu post-coloniale, si on peut le dire ainsi. je ne dis pas que je partage cette analyse, je vous en rends compte tout simplement, mais par rapport à un certain nombre de grands pays qui ont pas mal d'intérêts directs ou supposés ou potentiels en Haïti, donc les États-Unis, le Canada et encore dans une certaine mesure la France. Il est évident que Haïti souffre depuis beaucoup trop longtemps de toutes ces interpénétrations. Et bon, il faut dire que le séisme n'a rien arrangé, tout au contraire.
Deux choses. Oui. La première, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sur une carte géographique, Haïti, la République dominicaine, en fait, c'est un même pays, c'est un même territoire.
C'est l'île d'Hispaniola.
Voilà. Mais séparé en deux, regardez le développement de la République dominicaine qui a vraiment axé sur le tourisme. Si vous allez en Haïti, l'île est aussi belle. Clairement, les plages, le potentiel elle-même. Et donc ça prouve cette mauvaise gestion de l'État. Ça prouve clairement cette mauvaise gestion de l'État. Deuxième chose, suite au séisme, une grande part de la population s'est réfugiée dans les villes, a essayé de trouver des ressources dans les villes, est allée travailler dans les villes et ont déserté les campagnes. Or, on sait que c'est par la petite agriculture locale, familiale, qu'il y a moyen d'avoir des moyens de subsistance simples, qu'il y a moyen de reconstruire un pays aussi en n'étant pas obligé d'importer toutes les denrées de l'extérieur. Donc, je crois qu'il faut reconstruire aujourd'hui de la base, mais avec des dirigeants qui s'engagent véritablement pour le peuple.
C'est ça qu'il faudrait pour sortir Haïti de la situation actuelle, repartir des bases de zéro.
Et leur souhaiter moins de malchance, notamment climatique, parce que à chaque fois qu'on a l'impression que le pays se relève un peu, et il y a eu des épisodes politiques qui étaient quand même plus heureux, c'était soit un nouveau séisme en 2021, soit une tempête tropicale de grande ampleur, ça c'était en 2016 avec l'ouragan Matthew. Donc on se rend compte que c'est un peu un état maudit malheureusement, et malheureusement il y a plusieurs causes qui s'imbriquent.
Est-ce qu'il y a une solution miracle pour sauver Haïti, Christian?
Une solution miracle, je dirais que s'ils pouvaient évidemment trouver un pouvoir politique beaucoup plus au service de la population que de ses propres intérêts, mais aussi une autre ouverture par rapport au monde. Manu vient de dire que Haïti est aussi belle que la République dominicaine, mais évidemment, elle n'a pas d'infrastructure, j'imagine, touristique du type de la République dominicaine.
Non,
mais quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas, d'une manière ou d'une autre, pousser dans ce secteur-là? Encore que là aussi, on n'est jamais à l'abri de tous les excès que l'on puisse connaître.
J'ajouterais qu'il faut pouvoir aussi combattre clairement ces gangs. Ce sont des gangs qui sont très lourdement armés, la police n'a pas réussi à répliquer, et donc la question aujourd'hui c'est, faut-il une intervention internationale pour arriver à les désarmer, pour récupérer les structures desquelles ils ont pris possession? Comment nettoyer aussi ce phénomène de kidnapping, les trafics de drogue, le trafic des armes qui s'est implanté dans le pays? Donc voilà, il faudra un peu faire un nettoyage de ces pratiques qui peuvent pas aider le pays et la population. Et puis je vois la population qui aujourd'hui fuit. Donc je vous ai dit, il y avait toujours des camps aujourd'hui de personnes déplacées. C'est à nouveau plusieurs milliers et dizaines de milliers de personnes qui prennent la route simplement pour fuir. Mais fuir où? Parce que la République dominicaine ne veut pas les accueillir. Les États-Unis, on le sait pas plus. Donc ils sont un peu bloqués sur ce territoire.
Vous parlez justement de la police qui ne sait rien faire face aux gangs. Un des chefs les plus connus, il se fait surnommer Barbecue, ce qui fait un peu peur, je trouve, comme nom. Il était auparavant policier, justement, il y a encore quelques années. Comment est-ce qu'on peut expliquer comme ça qu'un représentant des forces de l'ordre passe de l'autre côté? Et comment, du coup, est-ce que la police pourrait lutter contre les gangs quand ils vont recruter dans leur rang?
Mais parce que la police est mal rémunérée. Et donc, je vais comparer avec un autre pays, mais la comparaison s'arrête là. Si vous prenez la République démocratique du Congo, c'est la même chose. Il y a des groupes armés qui agissent dans l'est du pays, et les forces de police ne peuvent pas suivre parce qu'elles sont moins armées, que les salaires ne sont pas réguliers, et que donc on sait que les groupes armés vont payer plus plus facilement et de manière plus régulière. Ici, en Haïti, c'est exactement le même principe. À partir du moment où vous voyez votre intérêt personnel, simplement, il y avait un autre ressortissant haïtien qui avait été emprisonné aux États-Unis et puis qui est revenu ici en Haïti pour mener la contestation. Il avait plutôt choisi une voie pacifiste au départ par des manifestations. Mais c'est la même chose. On sait qu'il y a un intérêt, que quand on a été dans des réseaux de trafic de drogue, de trafic d'armes, l'argent coule facilement.
Il sera difficile d'éliminer, enfin, je ne veux pas qu'on l'élimine physiquement, mais d'éliminer de la scène publique Jimmy Chérizier, puisque c'est de lui qu'on a parlé jusqu'ici. Parce que ce gars, je dirais, bon, je n'ai pas vu vraiment d'image d'interview de lui, mais j'ai lu des interviews de lui où. Bon, c'est pas un enfant de cœur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, s'il a le surnom de barbecue, c'est pas parce qu'il aime bien
faire des grillades l'été.
Faire des grillades ou manger des bonnes saucisses. Non, tout simplement parce qu'il a appliqué dans des méthodes de torture. Bon, quand vous imaginez tout ça, ben, on s'est dit, mais dans quel monde vivons-nous? C'est ça aussi le problème, c'est qu'actuellement, il y a suffisamment déjà de problèmes par les continents, que Haïti reste un peu en recul, peut-être aussi, cette partie de l'Amérique, centrale et du Sud, est nettement moins médiatisée, je dirais, que ne le sont les autres conflits, qui sont tout aussi graves et qu'il faudrait tout aussi vite résoudre. Nous sommes bien d'accord, évidemment.
Une autre source d'inquiétude, c'est aussi par rapport à la scolarisation des enfants. On sait que c'est déjà difficile pour cette population d'envoyer leurs enfants à l'école, de payer les études, d'avoir un matériel de qualité à disposition, les infrastructures. Et on a vu ici, au cours des derniers mois, nombre d'établissements scolaires qui ont été incendiés, des bâtiments publics aussi qui sont incendiés. Donc tout ça, il faudra reconstruire alors que le pays manque de moyens.
Alors, vous parlez d'école et vous avez parlé d'interview de Chérizier, donc je vais mixer les deux. Parce que je pense qu'on a lu les mêmes interviews, Christian, vous et moi. Chérizier, il se dit protecteur de son quartier que l'État aurait abandonné à lui-même dans un état... lamentable, on va dire les choses comme ça. Et donc, il met en place des choses qui sembleraient positives, notamment pour permettre aux enfants de retourner à l'école, de se sentir en sécurité, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut à la fois être un bienfaiteur, comme il a envie de donner l'image dans les interviews, et un malfaiteur pour d'autres attaquant des prisons?
Je dirais qu'il n'a pas d'agenda caché du tout. Hein. Ce qu'il veut, c'est continuer à exercer un certain pouvoir, même s'il sait que, bon, ben, il est quand même un peu dans le collimateur des démocrates, pour autant qu'il puisse encore s'exprimer vraiment du côté d'Haïti. Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment en sortir. Il faudrait en revenir tout doucement, quand même, de nouveau, à une génération politique avec des gens de la valeur jadis d'un Aristide, quoi, d'un Jean-Bertrand Aristide qui avait quand même permis, après l'épisode des docks, d'apporter un certain espoir. Mais bon, comme l'a dit Manu aussi, bon, la situation climatologique est telle que bon, dès que ça se remet un peu, ben, la nature s'en mêle. Et pourtant, Dieu sait si Haïti doit être une très belle terre.
Oui, juste un petit ajout par rapport au sentiment d'insécurité pour cette population. C'est quelque chose qui n'est pas neuf. Quand je suis allé il y a une dizaine d'années, j'avais vraiment été frappé par ces quartiers de la capitale où toutes les maisons sont encerclées par des enceintes sur lesquelles vous trouvez soit des tessons de bouteilles au-dessus des murs, soit des barbelés. Il y a des grilles et vous avez des gardiens aussi pour ceux qui ont les moyens. Et donc, ça montre un peu ce sentiment d'insécurité qui régnait partout dans la capitale. Donc, soit vous avez des quartiers beaucoup plus pauvres où là, vous trouvez plus les gens un peu qui vivent dans la rue, soit vous avez ces quartiers qui sont plus sécurisés, mais parce que les gangs étaient déjà mais plus en dehors de la capitale. Donc, dès que vous descendiez un peu vers le sud, vous trouviez ces gangs et il y avait des zones de non-droit. Aujourd'hui, bah, ils ont pris la possession de la capitale. Ils sont, comme vous l'avez dit en introduction, à 80% sur le territoire. Donc ça veut dire que dans les mois à venir, on ne va pas les déloger aussi facilement de cet apport de gains pour eux aussi.
Alors dernière petite question qui n'est pas si petite que ça avant de faire une pause. Manu, vous parliez tout à l'heure d'enlèvement dans ce sentiment d'insécurité. Il y en a plusieurs qui ont eu lieu ces dernières semaines dans tout le pays et en lien donc toujours avec ces gangs. Je pense notamment à des sœurs qui ont été enlevées, plusieurs sœurs et à plusieurs reprises. Je pense aussi aux prêtres qui aujourd'hui ont peur de célébrer leur messe. Les membres du clergé, autrefois, ils étaient assez respectés un peu partout dans le monde, je pense, pouvoir affirmer ça. Aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent avoir peur, que ce soit à Haïti ou même ailleurs, parce qu'on voit que c'est pas mieux ailleurs?
Ah ben, je peux confirmer qu'en Haïti, oui, ils ont peur et oui, ils sont la cible. Et bon, moi j'avais vu un chiffre de 2500 kidnappings recensés en 2023. Et en effet, certains concernent des religieux. Pour une part, on n'a plus de traces d'eux, on n'a plus de nouvelles. Certains ont été, ici justement, il y avait eu 5 personnes qui avaient été enlevées, donc 4 religieux. Ils ont été relâchés, donc... Il y a quand même de l'espoir. Après, je ne sais pas vous dire à quelles conditions ils sont relâchés. Est-ce que les communautés payent pour une rançon? C'est quand même le but de ces kidnappings. Mais il y a quand même beaucoup de violence et l'Église est autant prise pour cible que les institutions publiques dans le pays.
Ce qui explique aussi le récent appel du pape François lors d'une de ses audiences publiques. Parce que bon, tout ça se poursuit... de manière presque quotidienne, et donc il est vraiment important qu'on se mette à table, enfin que tous les démocrates du monde se mettent à table pour aider Haïti d'une manière ou d'une autre, et que l'aide évidemment arrive là où elle doit arriver. C'est malheureusement un des grands problèmes de certains pays.
Je vous propose de détendre un peu l'atmosphère dans le studio. Et on va faire ça en musique avant de nous retrouver pour aborder le deuxième sujet du jour, qui ne va pas être un sujet des plus faciles non plus. Donc on va se retrouver pour ça juste après Maroon 5 et Move Like Jagger.
I've got the moves like Jagger. Woo!
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous sommes de retour dans Décryptage avec Manu Vanir, journaliste chez Cato Bell et Dimanche, et Christian Laporte, journaliste spécialiste de la politique belge et de la famille royale, entre autres. Alors, ce lundi 11 mars, le président français Emmanuel Macron a dévoilé un projet de loi sur la fin de vie. Celui-ci comprend l'instauration d'une aide à mourir et un plan de développement des soins palliatifs. Concrètement, ce sont les patients majeurs capables d'un discernement plein et entier atteints d'une maladie incurable avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subissant des souffrances qui ne pouvant être soulagées, qui pourront demander à pouvoir être aidés afin de mourir. Cela écarte donc les maladies psychiatriques et neurodégénératives qui altèrent le discernement, et une clause de conscience est prévue pour les professionnels de la santé, mais pas pour un établissement dans son ensemble. Ça, c'est le gros résumé de ce projet de loi qui a été proposé par le président. Est-ce que la France, elle va pas un peu vite en besogne d'un coup comme ça, en proposant cette loi juste après l'inscription de l'IVG dans la Constitution? Ça fait pas un peu beaucoup?
D'une certaine manière, oui, sans doute, parce que bon, on sait que sur ce type de questions éthiques, les oppositions, les prises de position sont toujours très fermes et très décidées. Et d'ailleurs, je crois que Emmanuel Macron n'a pas hésité à dire que lorsqu'il faudra adopter la loi, ben, il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes. Je n'ai plus ces termes exacts en tête, mais en tout cas, quand on sait toute l'opposition, la mobilisation qu'il y a eu de la population, quel que soit le camp, pour ou contre l'IVG, il est évident que cette question-ci aussi va certainement amener de divisions dans la société française. Et bien entendu, le fait tout d'un coup maintenant d'avancer cela, on parle déjà du mois d'avril pour la présentation du premier texte, ben est-ce que ça ne va pas influencer aussi les élections européennes? Bon, les Français ne vont pas voter autant que nous le 9 juin, mais quand même, ils ont les élections européennes. Et là, déjà, on voit qu'il y a des gros enjeux politiques, notamment par rapport au Rassemblement national de Bardella et de Marine Le Pen. Donc, j'ai quand même un peu peur que cela ne clive profondément de nouveau la société française, mais de manière un peu radicale et extrémiste, de telle manière que, contrairement, par exemple, à chez nous, on ne puisse pas trouver de véritable compromis, encore que, j'ose quand même le dire aussi, pour l'euthanasie et pour d'autres progressions éthiques en Belgique, ben, il n'y a jamais eu vraiment, notamment, une unanimité sur des textes vraiment de consensus. C'était quand même assez divisé aussi.
Manu?
Alors, est-ce que le sujet clive? Oui. Est-ce qu'il est sensible? Oui. Votre question était, est-ce que ça vient rapidement? Je pense pas, par contre. Il y a une réflexion qui est menée depuis longtemps, et notamment par une volonté d'association. On connaît les associations pour le droit de mourir dans la dignité, même si j'aime pas beaucoup cette expression de mourir dans la dignité, comme si... pour d'autres personnes, ce n'était pas le cas de mourir dans la dignité. Mais oui, donc il y a une réflexion qui est menée de long terme. Ici, certaines personnes ont été entendues aussi avant ce projet de loi, et notamment des représentants religieux. Et on sait que les débats vont durer certainement plusieurs mois et probablement une année. Donc, je ne pense pas que ce soit fait dans la précipitation. Par contre, on peut s'étonner de la présentation et des termes qui sont utilisés et de la volonté aussi. Il y a un évêque, donc Monseigneur Rouget, qui est évêque de Nanterre, et qui s'étonnait qu'un projet de loi qui normalement devait concerner les soins palliatifs se soit transformé en projet de loi qui est à mi-chemin entre l'euthanasie et le suicide assisté, finalement. Et donc, lui, il s'étonnait plus de l'évolution qu'on voulait donner à cette loi. Il s'étonnait aussi des termes qui sont utilisés. Quand on parle d'une aide à mourir, c'est très vague. Quand on voit aussi dans les circonstances dans lesquelles ça se ferait, Bon, alors, on dit bien un projet de loi, mais il y aura un produit létal que la personne peut s'administrer ou qu'un proche peut s'administrer, peut lui administrer. ou qu'un médecin peut lui administrer. Où sont les règles là-dedans? Où est-ce que ça a été réfléchi aussi par rapport à la sensibilité d'un proche? Enfin, vous imaginez deux secondes, un proche qui vous accompagne vers votre fin de vie, qui souffre certainement de vous voir souffrir vous-même avec tout l'amour qu'il a pour vous, mais qui devrait aller poser ce geste. Enfin, donc je pense que là, précipiter, c'est plus dans ce qui est proposé que c'est précipité. Le fait qu'on mette cette question sur la table, par contre, ça me semble une saine réflexion dans une société à mener. Mais il faut pouvoir entendre toutes les sensibilités et arriver à quelque chose d'équilibré avant de porter un projet de loi comme celui-là.
Effectivement, il y a beaucoup de points dans le projet de loi où les médias français s'interrogent sur des précisions qui n'ont pas été données et qu'il faudra peut-être donner dans les débats dans les mois à venir. En général, quand on parle de cette question de fin de vie, on parle d'euthanasie ou de suicide assisté, on l'a déjà dit ici. Ce sont des mots qui n'ont pas été utilisés par le président, qui d'ailleurs a dit qu'on ne se trouve pas précisément dans la situation d'un suicide. Le choix n'est pas entre la vie et la mort, car la mort est déjà là de toute façon. Fin de citation. Est-ce que ça passe mieux parce que c'est uniquement pour des personnes qui savent qu'elles vont malheureusement bientôt mourir?
Je n'ai pas l'impression, parce que bon, ça reste évidemment un sujet horriblement touchy dans quelque camp que l'on se situe. Hein. Bon, il y a quelques jours, on a encore eu lors d'une réunion de famille tout un débat entre quelqu'un qui, ne pouvant, souffrant vraiment très fort et étant en même temps chrétien, aurait demandé l'euthanasie si elle pouvait déjà exister en France, n'existant pas. Bon, il est venu en Belgique. Et il a vraiment, comme il est médecin lui-même, c'est beaucoup plus difficile encore à expliquer, je ne vais pas dire à justifier, parce que c'est aussi un grand choix de la personne qui décide de le faire. Mais qui suis-je, moi, si je devais participer à la fin létale de quelqu'un? Je crois que ce serait très difficile, autant dans certaines situations éthiques. Bon, ben on peut mettre de l'eau dans son vin et comprendre certaines situations, autant celle ici de la fin de vie. Bon, présentée comme une aide à mourir, ça reste quand même très dur à faire passer, même si euthanasie et suicide assisté ne sont pas vraiment évoqués, ou pas encore évoqués, parce que je suppose qu'il va y avoir des tonnes d'amendements dans tous ces débats, qu'il y aura encore des commissions avec des experts, etc. Et que finalement, peut-être que ce que Emmanuel Macron a présenté va se retrouver certainement dans une réalité, mais pas dans celle qu'il a décrite à nos confrères de la Croix et de Libération.
Moi, je pense qu'ils veulent proposer des possibilités, finalement, de venir en aide dans des cas très précis, des situations précises. Je lisais le témoignage très touchant de deux malades de Charcot, dont l'un était médecin, avait aidé quelqu'un à mourir, mais enfin l'avait aidé, l'avait accompagné plutôt, justement, il faut faire attention au terme, l'avait accompagné jusqu'à sa mort, donc en forme de soins palliatifs, et disait à quel point il avait trouvé ça difficile en tant qu'ami et médecin de cette personne de voir les derniers jours de son ami. Et lui-même a contracté la maladie actuellement, et donc bon, la maladie de Charcot, donc c'est une maladie dégénérative, et c'est vrai que la fin de l'existence est très difficile. Alors, on sait que du côté de l'Église, on ne veut pas trop entendre parler de cette aide à la fin de vie. L'aide à la fin de vie, prônée par l'Église, ce sont les soins palliatifs, c'est l'accompagnement, ce sont des aides spirituelles, c'est la proximité familiale, c'est tous les soins qui peuvent être apportés par le personnel soignant et toute l'attention qu'ils apporteront à leurs patients. Et donc, je pense que dans une société qui prône l'amour, on doit mettre ça en priorité, clairement. Maintenant, qu'il y ait une possibilité pour des cas précis, en effet, d'atténuer la souffrance, c'est un peu le devoir aussi d'un gouvernement de le prévoir. Et mais, comme je le disais tantôt, dans le débat, dans la réflexion et en acceptant les différents points de vue, les différentes sensibilités sur la question.
Et vous parlez de l'accompagnement en soins palliatifs par les infirmiers, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus assez d'infirmiers, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont plein de travail administratif, souvent ils n'ont pas le temps justement de faire cet accompagnement correct, même en soins palliatifs.
Mais vous avez vu que dans le projet de loi du président Macron, il y a un renforcement donc des moyens financiers donc pour ces soins palliatifs. Il y avait 1,5 milliard d'euros qui étaient actuellement consacrés aux soins d'accompagnement. Et il y a 1 milliard d'euros de plus. Donc, on est à peu près à 35-40% de budget supplémentaire qui devrait être consacré notamment à des maisons d'accompagnement qui préfèrent le lien. Mmh. Et je fais une petite parenthèse, on avait eu dans l'émission « Il était une fois », là tout récemment, un invité, Pascal André, qui nous présentait le travail qu'il y avait moyen de faire aujourd'hui pour accompagner la fin de vie à domicile. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu trop oublié. C'est soit on vous envoie à l'hôpital, en maison de retraite, mais pouvoir accompagner à domicile avec un personnel soignant qui vient, ben c'est peut-être là-dedans aussi qu'il faut mettre les moyens aujourd'hui qui vous permettent ben, voilà, de mourir tout aussi dignement et sereinement chez vous.
Je pense qu'il y aura de toute façon des prises de position intéressantes dans le débat des courants religieux par rapport à ça. Les évêques, la conférence épiscopale française a assez de ressources pour un grand débat là-dessus autour de ça. Peut-être partir de la loi Claes Leonetti, la sédation profonde jusqu'au moment final. Bon, c'est quelque chose dont j'avais débattu il y a quelques années lors d'une rencontre tout à fait improbable autour de l'euthanasie entre Gabriel Ringlet et Monseigneur Léonard. Donc Ringlet avait défié les évêques à entrer en dialogue avec lui à ce sujet, et Léonard avait accepté. Bon, je ne vous dirai pas que leurs points de vue se sont fondamentalement rapprochés, mais on a quand même perçu une ouverture intellectuelle intéressante, et je crois que là, certainement l'Église, mais bon, ça peut aussi être l'islam ou la religion juive, enfin toutes les religions, et même les laïcs, parce que bon, tous les laïcs enfin, sont peut-être plutôt pour l'euthanasie, mais pas nécessairement tous jusqu'au bout non plus, devraient pouvoir être associés davantage, et aussi chez nous, puisqu'on parle aussi de nouveau, depuis un certain temps déjà, d'approfondir, de renforcer la loi sur l'euthanasie. Je pense qu'il serait vraiment important que ce débat s'élargisse à l'ensemble de la société civile, mais aussi de tous les porte-paroles, et que ce ne soit pas uniquement un débat politico-politique avec une majorité et une opposition, puisqu'il y en aura toujours une. Je ne vois pas une unanimité se dégager autour d'un tel sujet, quoi.
Peut-être un petit conseil au gouvernement Macron, ben c'est de s'inspirer, d'observer ce qui est fait dans d'autres pays, afin de pouvoir poser des limites ou des pratiques qui sont les plus judicieuses possibles.
Il y aura de très bons experts, notamment en Belgique, pour l'aider, mais enfin aussi aux Pays-Bas, enfin dans tous les pays où on
a quelques années d'avance,
soit pour l'euthanasie, soit pour le suicide assisté, même dans des pays quand même, je pense que l'Italie aussi est arrivée finalement à accepter le suicide assisté. Or, Dieu sait si l'Italie était encore le berceau de la religion chrétienne jusqu'il y a peu.
Alors justement, vous parlez des autres pays, c'est là où je voulais en venir, c'est génial pour moi. Alors pour bien comprendre la question que je vais vous poser, je me permets de donner quelques définitions. Donc l'euthanasie active, c'est ce qui désigne le fait d'abréger intentionnellement les souffrances d'une personne. Un médecin ou un tiers va par exemple injecter une substance entraînant directement la mort du patient. Et l'euthanasie passive ou indirecte, c'est quand l'équipe médicale en charge du patient décide de ne pas prendre des mesures pour prolonger la vie. Et donc la mort peut survenir par l'administration de médicaments analgésiques ou après le débranchement d'un respirateur. Alors, dans l'Union européenne, seuls 8 pays interdisent et criminalisent l'euthanasie. Une quinzaine de pays, dont la France, autorise l'euthanasie passive et 5 pays, dont la Belgique, autorisent l'euthanasie active. Alors, l'euthanasie active est pour le moment considérée comme un homicide en France, mais rien n'empêche les patients donc de refuser leur traitement. Ici, on passe un cap, mais est-ce que c'est un cap si difficile que ça à franchir? Est-ce que la nouvelle loi pourrait
être considérée comme... Oui, sans doute, parce que, bon, justement, toutes ces questions éthiques ont toujours eu une très grande influence sur le débat politique en France. Hein. Regardez l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ben... C'est passé, il y a une majorité et tout, mais quand même, je dirais même que jusqu'au bout, il y avait quand même encore quelques hésitations de la part de certains. Et donc, on ne va pas non plus déifier la situation française non plus. Il est évident que c'est un pays leader aussi dans l'Europe, sur le plan sociétal. Et il est donc vraiment important que de ce côté-là aussi, ces débats aient lieu.
Bah, la première chose, c'est que en France, vous avez beaucoup de gens qui vont à l'étranger, justement, pour ces pratiques d'euthanasie active que vous décriviez. La pratique d'euthanasie passive, elle est communément acceptée dans le sens pas d'acharnement médical. Et là, c'est un choix de la personne. Et pour vous répondre, eh bien, je prendrai une citation du grand rabbin Haïm Korsia qui déclarait dans Le Monde « Le grand principe, c'est d'abord soigner, s'occuper. Ce serait tragique de se dire qu'on entre dans un monde où tuer devient un soin. On va rompre avec un système qui dit qu'on ne peut pas donner la mort. » Donc, il y a une question morale aussi derrière sur laquelle chacun sera juge.
Tout à fait. Mais donc, c'est vraiment important que cette dimension-là soit aussi abordée dans les débats préparatoires et davantage encore lorsqu'on en traitera à l'Assemblée nationale à Paris.
Voilà, c'est une citation qui est, je trouve, très bien pour clore notre conversation du jour, qui ouvre à la réflexion pour nos éditeurs. Et nous allons maintenant faire une nouvelle pause en musique. Je vous propose de bouger un peu et de danser avec Loïc Noté.
Je me revois dans le vestiaire danser en solitaire, avant qu'il ne me voie, qu'il ne me lacère. Je me revois rêvant de danse, fait finir en transe, sans gêne saigner le parquet, tentait ma chance. Les grands disaient tout le temps comme nous rêvent pas souvent, imite-toi normalement, ne fais pas autrement. Laisse l'espoir aux enfants, ne perds plus trop de ton temps. Et apprends la leçon, mon grand songe, il ne donne pas d'argent. Alors j'ai jamais lâché, lâché pour m'y faire. Jamais je ne t'ai laissé sans aucune leçon nous valser. Au risque de déplaire, alors je suis souvent tenté, tenté pour le rêve. Jamais je ne te laisserai à la tienne, je le lève sans terre. Et regarde-moi faire danser. Merci. Depuis victime d'insomnie, j'implore l'oubli. Tes mots sont inscrits gravés, ma femme d'envie. Car peiner de constater, croire en ça fait flipper. Assumer ce que l'on pense, c'est parfois risqué. On ne peut jamais rien dire sans jouer l'accusé. Ils adorent te condamner, c'est jalouse au point d'envier. Alors j'ai jamais lâché, lâché pour m'y faire. Jamais je ne t'ai laissé sans aucune leçon nous valser. Et regarde-moi faire danser. Risque de déplaire, alors je suis souvent tenté, tenté pour le rêve. Jamais je ne te
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
Et nous voici déjà arrivés à la troisième partie de ce décryptage. Et il nous reste donc à entendre les zooms des décrypteurs du jour. Avec moi en studio, toujours Christian Laporte, journaliste spécialiste de la politique belge et de la famille royale. Et Manu Vanier, journaliste chez Cato Bell et Dimanche. Alors, qui veut se lancer avec son zoom ?
Allez, je veux bien pour une fois. Donc, c'est une carte blanche qui m'a marqué, une carte blanche de représentant de Greenpeace paru dans Le Vif. Greenpeace alerte sur une directive européenne qui pourrait ne pas voir le jour. C'est une directive qui a pour objet d'imposer un devoir de vigilance aux entreprises européennes concernant l'impact humain et environnemental de leurs activités. En clair, l'Europe pourrait imposer aux entreprises des normes de contrôle pour s'assurer que, dans leur chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas de pratiques qui violent les droits humains ou de pratiques qui violent les droits environnementaux. Ces pratiques, elles peuvent être liées à l'utilisation d'énergie fossile, par exemple, mais aussi à de l'esclavage moderne dans la production. Et par exemple, la production de coton est concernée, la production de cacao également. Et puis aussi, on pense à l'extraction minière où le travail des enfants reste une réalité. Donc, les sociétés ne pourraient plus demander en tout cas une partie de leur production à d'autres sociétés basées à l'étranger et pour lesquelles on soupçonnerait des pratiques hors la loi ou en tout cas qui ne sont pas dans le respect des droits humains ou environnementaux. Et puis, cette directive, elle permettrait aussi de cesser toute collaboration avec ces entreprises étrangères qui, par exemple, polluent ou qui mettent en danger la santé de populations locales. On sait que dans certains pays, on n'est pas trop regardant par rapport aux normes, mais que ça a un impact direct sur un environnement immédiat ou parfois un peu plus lointain, si on pense par exemple à des cours d'eau qui sont pollués et au fait que beaucoup de populations dépendent de ces cours d'eau pour vivre. Alors, l'approche du vote de, ici à l'approche du vote du Conseil européen, l'Allemagne et la France ont fait un pas de côté et demandent des normes moins strictes ou l'application uniquement aux entreprises de plus de 5000 employés. Actuellement, la directive devrait être imposée à toute entreprise de plus de 500 employés. Donc, vous imaginez le nombre d'entreprises qui pourraient être concernées dans l'un ou l'autre cas. Greenpeace demande à la Belgique, qui préside l'Union européenne actuellement, de défendre le vote de cette directive. Qui va l'emporter, les droits humains et environnementaux ou les lobbies qui défendent l'intérêt commercial des entreprises? Eh bien, seul l'avenir nous le dira.
Merci Manu. Alors vous, Christian, vous allez nous parler d'une visite de l'archevêque.
Oui, tout à fait. Dans le cadre d'une interview à paraître prochainement dans le trimestriel Pro Petri CD, le nouvel archevêque nous expliquait que il n'allait pas faire comme son dernier prédécesseur, mais l'antérieur, donc Monseigneur Léonard, partir à la découverte des doyennés, des paroisses, y passer parfois plusieurs jours et puis seulement retourner à Malines. Lui, au contraire, l'idée est de se faire inviter à aller célébrer ou concélébrer un office dans une paroisse, dans un environnement peut-être un peu festif et de rencontres. Et donc là, on l'a suivi. On l'a suivi à la paroisse Sint-Rocus à Halle, dont on a réinauguré l'église, figurez-vous, après plusieurs années de travaux. Et effectivement, ça s'est passé de manière remarquable. Il a été très bien accueilli par les paroissiens locaux. Bon, il y avait même des jeunes dans la salle, donc dans l'église, ce qui était quand même assez remarquable. Et donc, il s'est vraiment mis au diapason de cette paroisse et il a passé pratiquement toute la journée, puisqu'il a été invité également après à déjeuner chez des paroissiens. Et donc, c'est une manière pour lui vraiment de découvrir les réalités de l'église de Malines-Bruxelles aujourd'hui. Et il le fait avec d'autant plus de plaisir qu'on sent très bien qu'il est à l'aise, quoi, que ce n'est pas une obligation. Je ne vais pas citer nom, mais il y avait des archevêques antérieurs, pas Léonard justement, qui étaient peut-être un peu plus difficiles en brut de décoffrage par rapport à l'accueil reçu. Mais ici, ça se passait très bien. Et je me dis que c'est une manière de réinscrire l'Église de Belgique dans son environnement. Et alors, pourquoi est-ce que je parlais aussi de Léonard? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, lors de sa visite à domicile dans les paroisses de l'endroit et donc du doyenné de Halle, il s'est également rendu à l'église Saint-Roch, Sint-Trocus, et bon, ben, ça s'était très bien passé aussi, mais plus à la manière Léonard, puisqu'on l'a même vu chanter à un moment donné Libia Bouquet avec même pas avec un Namurois d'origine, mais avec un habitant du Cru qui connaissait bien la chanson aussi. Voilà, donc c'est pour vous dire que, bon, les espoirs de changement, de renouveau dans l'Église de Belgique, faut pas nécessairement espérer la révolution, mais une évolution normale, et je pense qu'en choisissant déjà un archevêque un peu plus jeune que d'habitude, eh bien, ça porte ses fruits.
Super, merci pour ce zoom, Christian, et merci à vous aussi, Manu. Et nous retrouvons maintenant Pierre Granier, secrétaire de rédaction chez Catobel, pour nous parler du journal dimanche de la semaine. Dites-nous, Pierre, que pourront lire nos auditeurs dans le journal?
Bonjour Armel et bonjour à tous. L'actualité religieuse ce week-end en Belgique est marquée par la tenue du congrès Mission à la basilique de Koekelberg. Dans une précédente édition, dimanche, vous avez présenté Annonciade le Ménager, l'une des initiatrices de la première édition de cet événement lancé en 2023 et qui avait connu un beau succès en rassemblant 1500 personnes. La raison d'être d'un tel congrès est de nous rappeler que la mission est l'affaire de tous et qu'il y a mille et une façons d'être missionnaire. C'est pourquoi Dimanche a demandé cette semaine à 8 personnes engagées dans l'Église ce qui a fait qu'elles étaient devenues chrétiennes. Autant de témoignages qui sont des trésors, écrit Vincent Delcor. Vous pourrez les lire en pages 8 et 9. Comme vous le savez, les pages 2 et 3 de Dimanche sont celles réservées au grand entretien. Et l'invitée de cette semaine s'appelle Pauline Ponce. Depuis 20 ans, cette Française se rend dans les musées en compagnie de dirigeants d'entreprises pour les initier à l'art. Elle donne également des conférences, elle était récemment à Namur, pour nous aider à distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte. Ayant grandi entre une mère catholique férue d'art roman et un père de confession protestante, cette historienne de l'art nous parle aussi de l'art religieux qui a régné en maître pendant des siècles. L'Église a parfaitement compris cette dimension transcendantale de l'art, nous explique Pauline Ponce. Elle sait que ce n'est pas la raison seule qui va nous permettre d'entrer dans la spiritualité. Pour autant, l'historienne estime que les religieux ne sont pas forcément les meilleurs commentateurs des œuvres religieuses parce qu'ils risquent d'enfermer l'œuvre, la réduire à quelque chose qui relève davantage de la communication que de l'art universel. Ces propos ont été recueillis par Angélique Tasio et sont à lire en pages 2 et 3. Le monde a toujours les yeux rivés sur ce qui se passe en Palestine et en particulier dans la bande de Gaza où il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'entrer ou de sortir. Sur place, les humanitaires demeurent toutefois actifs. Membre de Handicap International, Jean-Pierre Delaumier a ainsi pu rendre visite fin février à ses collègues. Normalement établis dans la ville de Gaza, ces derniers se sont eux aussi comme 1,5 million de Palestiniens réfugiés dans le sud, à Rafah. Et en arrivant sur place, de nombreux enfants et adolescents ont accouru vers les voitures de sa mission. Confirmant sa première impression, la ville manque de tout. La conjonction de bombardements, de déplacements et de pénurie totale crée une situation totalement inédite, relève Jean-Pierre Delaumier, qui a pu lire de l'effroi sur les visages rencontrés. Vincent Delcor a recueilli son témoignage en page 4. On termine ce tour d'horizon de dimanche avec une page de spiritualité qui nous renvoie au récit de la passion de l'évangéliste Marc. Ce dernier y évoque fugacement un jeune homme qui suit Jésus après son arrestation à Gethsémani et que l'on retrouve plus tard annonçant la résurrection du Christ. Une présence qui a suscité bien des commentaires parmi les exégètes. Qui était ce curieux personnage? Eh bien, l'abbé Benoît Lobé résout ce mystère en page 10. Voilà, bonne semaine de lecture avec Dimanche.
Merci à tous les trois pour... Et tous et à toutes, oui. D'être venus aujourd'hui.
Mais merci à vous pour l'accueil.
Eh bien, le podcast est disponible sur le site du catobel.be et rcf.fr. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt sur RCF.